Cours biblique ce que la Bible dit texte de la leçon 9 Restauration de l'Église du Nouveau Testament. La leçon 8 nous a dépeint l'exemple parfait de l'unité qui caractérisait l'Église apostolique. Malheureusement, une altération progressive de la vérité, apostasie, fut prédite pour le futur. Jésus précisa que MT 24h11. Paul, plus tard, devait lancer cet avertissement, 1 Tim 4:1. Il prédit que l'ultime manifestation de l'apostasie arrivera lorsqu'un homme viendra s'asseoir dans le temple de Dieu, parlant à la place de Dieu, 2 Thess 2, 3-4. Paul devait également nous dire que l'apostasie commencerait parmi les dirigeants de l'Église, Actes 20h28-30. Dès la fin du 1er siècle, les forces démoniaques entrèrent en action, produisant l'apostasie. I. Apparition de l'Église apostate. L'apostasie au sein de l'Église se développa graduellement, atteignant celle-ci dans son organisation, sa doctrine et son culte, ainsi que dans sa conduite. Voici quelques exemples de cette lente détérioration. A. Apostasie dans l'organisation, comme les assemblées de l'Église du Nouveau Testament possédaient chacune une pluralité d'évêques, ou anciens, de rang égal et dont l'autorité ne s'exerçait que dans les limites de la congrégation locale, Actes 14h23, 20h17-28, PHP 1, 1. Seul le Christ était le chef suprême de toutes les églises, 1 Pierre 5, 1 à 4. Cependant, au cours des 2e et 3e siècles, l'ancien qui présidait les réunions de conseil d'évêques d'une assemblée en prit tellement l'habitude qu'il fut vite considéré comme un évêque dont la fonction était supérieure aux autres, il conserva pour lui seul le titre d'évêqué, afin qu'aucune confusion ne subsiste, les autres furent uniquement appelés anciens, prêtres. Un seul évêque dirigea chaque assemblée de chrétiens alors qu'au début, plusieurs évêques, de même rang, avaient les mêmes fonctions à la tête de l'assemblée. Le développement de l'apostasie dans l'organisation de l'Église. Pape évêque de Rome, évêque métropolite patriarche, un seul évêque élevé au-dessus des autres, une pluralité d'évêques dans chaque assemblée. Toutefois, tous les évêques resteront égaux sur le plan de l'autorité. L'organisation de l'Église continue de s'altérer au cours des 4e et 5e siècles. Certains évêques devinrent chefs de plusieurs assemblées réunies dans une même région, puis les évêques des régions les plus importantes, Jérusalem, Rome, Antioche, Alexandrie, Constantinople, acquirent davantage de puissance, furent appelés patriarches et plus tard archevêques. L'Encyclopédie catholique, vol. 2, page 583 et vol. IV, page 44, admet que ce pouvoir nouvellement acquis trouva son origine au cours des 4e et 5e siècles. Comme nous le montre le développement de l'apostasie cité plus haut, ces archevêques étaient encore égaux entre eux. L'évêque de Rome n'avait pas plus de pouvoir que celui d'Antioche. Cette forme d'égalité était encore admise au cours du 6e siècle. Grégoire Ier, évêque de Rome en 590, déclaré plus tard pape, saint et docteur, écrivit à Eulogie, évêque d'Alexandrie, afin de lui démontrer la primauté de l'évêque de l'Église de Rome, dont Pierre était considéré comme le fondateur, sur les autres évêques en place présentement par l'autorité divine. Les trois évêques qui tombèrent ainsi sous la coupe de l'évêque de Rome furent Alexandrie, Antioche et Rome. Plus tard, quand Jean le Jeuneur, patriarche de Constantinople, se fit appeler évêque universel, Grégoire Ier dénonça le titre comme blasphématoire, arrogant et pervers. Ce qui n'empêcha pas Boniface III, successeur de Grégoire Ier, de revendiquer le titre pour lui-même en 607. L'autorité de l'évêque de Rome, appelé pape désormais, continuera de s'affirmer au cours des âges. Cependant, à une date relativement récente, en 1837, John May Purcell, évêque de Cincinnati, USA, déclare au cours d'un débat, débat sur la religion catholique et romaine, page 23, aucun catholique éclairé ne peut admettre l'infaillibilité du pape comme un article de foi. Puis 43 ans plus tard, en 1870, le Conseil du Vatican déclara très exactement le contraire. Une complète soumission au pape est demandée comme à Dieu lui-même. Le pape doit être considéré comme étant à la place de Dieu Tout-Puissant. La grande encyclique, page 193, 304. Ainsi s'accomplit la prophétie selon laquelle l'homme ira s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, 2 Thess 2, 3 à 4. Le système hiérarchique et la papauté sont le résultat des écarts et de l'altération progressive au cours des siècles du plan d'organisation initial du Nouveau Testament. B. Apostasie dans la doctrine et le culte. La promotion d'hommes non inspirés au sein de l'Église aboutit à de nombreux changements dans la doctrine et le culte. En voici quelques exemples, la prêtrise, la Bible dit que tous les chrétiens sont prêtres, 1 Pierre 2, 5 à 9, Apocalypse 1, 6, soumis à Jésus, le grand souverain sacrificateur, et 4h14-16. Plus tard, les anciens obtinrent d'être considérés comme une prêtrise spéciale, clergé, séparée du reste de l'Église. C'est d'après le modèle du clergé juif que l'évêque nouvellement élevé en dignité devint le grand prêtre, les anciens seuls furent appelés prêtres et les diacres, lévites. Le repas du Seigneur, ce changement dans la prêtrise se répercuta inévitablement dans le culte. La simplicité du culte de l'Église primitive fut remplacée par une cérémonie rituelle dirigée seulement par les prêtres. La fonction première du prêtre juif était d'offrir des sacrifices pour le pardon des péchés, et 5.1. En conséquence, le souper du Seigneur, Eucharistie, prit une signification, la commémoration de la mort du Christ, une compagnie 11h23-26. La communion devint un sacrifice permanent. Bien que la Bible précise nettement que le Christ s'offrit en sacrifice une fois pour toutes pour effacer les péchés, et 9h25-28. 10h10-12, l'Église commença à enseigner que le sacrifice du Christ devait être offert continuellement et que le pain et le vin étaient réellement changés au corps et au sang du Seigneur. Plus tard, les prêtres refusèrent le vin aux autres membres de l'Église bien que tous les chrétiens soient incités à boire ensemble, une compagnie 11h26-28. Marie la Mère de Jésus, tous les vrais chrétiens reconnaissent la merveilleuse bénédiction accordée à Marie, le fait d'avoir été choisie par Dieu comme Mère du Divin Jésus, Luc 1h48. Cependant, les influences profondes du paganisme donnèrent à Marie une prédominance disproportionnée en regard de sa réelle personnalité, le culte rendu à d'innombrables déesses dans le monde païen est à l'origine de cette déviation. Pourtant, la Bible ne mentionne pas une seule fois le nom de Marie après l'établissement de l'Église. Voici quelques références bibliques se rapportant à la mère de Jésus, Matthieu 1h16-25, 2h11-21, midi 46-50, 13h55-56, Marc 3h31-35, 6, 3, Luc 1h27-56, 2, 5-7, 16h22-27, 33-51, 8h19-21, 11h27, 28, Jean 2, 1-12, 6h42, 19h25-27, Actes 1h14. Concernant l'élévation de Marie, l'Encyclopédie catholique admet qu'au cours des premiers siècles, la dévotion à Marie était pratiquement inconnue, vol. XV, page 460. Des doctrines telles que l'Immaculée Conception, la virginité perpétuelle, l'Assomption de la Vierge et l'intercession n'apparurent que beaucoup plus tard et sans aucune base scripturale ou historique. La virginité perpétuelle de Marie renforce la loi sur le célibat ecclésiastique. Pourtant, il est bien établi dans Matthieu 1h25 que Joseph ne connut pas charnellement Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Plus loin, les frères et les sœurs du Christ ne sont-ils pas nommés avec Marie, Matthieu midi 46-50, 13h55-56, la Bible dit que la femme doit pratiquer des relations normales dans le mariage, une compagnie 7-3-5, intime 2h15. Le fait que Marie ait eu d'autres enfants est normal, noble et pur. Et 13.4. Jésus n'admet pas que Marie, sa mère, puisse être considérée comme étant élevée au-dessus des autres chrétiens. Quand une certaine femme lui crie, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité », Jésus répond, Luc 11h27-28. Croire que Marie est la médiatrice entre Dieu et les hommes est pleinement démenti par 1 Timothée 2.5. Il est recommandé à tous les chrétiens de tout faire au nom de Christ, Col 3h17. Il leur est promis également que toutes les prières fautes en son nom, seront exaucés, Jean 14h13-14. Ainsi, il est bien prouvé que les chrétiens n'ont besoin d'aucun autre nom, d'aucun autre intercesseur en dehors de Jésus. C'est apostasie dans la conduite de l'Église. Concernant les faux prophètes, Jésus lui-même nous met en garde, MT 7h16-17. S'adressant aux églises d'Asie, Jésus les avertit qu'elles seront retranchées de l'Église véritable si elles ne se repentent pas de leurs paroles trompeuses, Apoc 2:4-5, 14-16. 3:2-3, 15-17. L'Église romaine risque en effet d'être repoussée de Dieu si elle ne demeure pas ferme dans la bonté qu'il manifeste, RM 11h22. L'apostasie s'étant répandue dans la doctrine de l'Église, il était normal qu'elle affecte également la conduite de celle-ci. Au cours des 2e et 3e siècles, le célibat et le jeûne furent souvent pratiqués. À partir du 4e siècle, les monastères s'étendirent, exaltant ces pratiques ascétiques et bientôt, l'Église occidentale prit la décision d'interdire le mariage à l'ensemble de son clergé. Là encore, cette attitude de l'Église est en complète contradiction avec les écrits bibliques où justement il est recommandé à l'évêque intime 3:2. Ainsi se vérifie la prophétie selon laquelle intime 4:1-3. L'interdiction du mariage produisit par réaction un relâchement moral. Alors que le Nouveau Testament ordonne à l'évêque d'être irréprochable, l'Église passante n'hésita pas à conserver à sa tête des hommes dévoyés et scandaleux dans la charge d'évêque et même de pape. L'Encyclopédie catholique flétrit la conduite de certains papes immoraux tels que Jean XII, Jules II, etc. Vol. I, page 289, vol. 2, page 429, vol. VII, page 20, 626, 562. Des adolescents, quelquefois, reçurent la charge de pape, de cardinal ou d'évêque, ENC. Catholique, vol. VII, page 20. La dépravation dont le pape donnait l'exemple, fut la base de l'extension de l'immoralité parmi les membres des hauts et bas clergés. Une charge d'évêque se vendait aux plus offrants, c'était une pratique courante à l'époque, ENC. Catholique, vol. VII, page 20. Ce triste panorama du relâchement moral et spirituel contraste fortement avec la pureté de l'Église primitive, 1 Jean 2, 4 à 10, qui écarte de son sein avec ses vérités et justice tous les membres dont l'inconduite est notoire, une compagnie 5, 1 à 13. Alors que l'immoralité dominait un peu partout, l'opposition à l'autorité du pape lorsqu'elle se manifestait fut exterminée dans le sens propre du terme. L'exemple de la déclaration du pape Innocent III en 1206 à la suite du massacre des deux tiers de la population du Midi de la France, est encore présent dans les mémoires. Nous vous exhortons à tout mettre en œuvre pour détruire radicalement l'hérésie albigeoise. Persécutez-les sans aucune pitié, dépossédez-les de leurs terres et de leurs châteaux, bannissez-les et que partout les catholiques romains prennent leur place. La terrible Inquisition bientôt s'installe en Italie, en France et en Espagne. Des centaines de malheureux furent ainsi déportés et livrés au supplice par les soins de l'Église romaine qui les abandonna aux autorités séculaires, sous l'accusation d'hérésie. Le pape accorda des indulgences à tous ceux qui s'acquittaient de ce pieux devoir, Inquisition, page 43. L'action d'Innocent III et de l'Inquisition trouve encore des défenseurs parmi les catholiques modernes, ENC. Catholique, vol. VII, page 262, vol. VII, page 31. Quel contraste avec le christianisme authentique. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Virgule, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, mais surmonte le mal par le bien. Virgule, l'amour ne fait point de mal au prochain. RM midi 17, 20, 21. 13h10. Quiconque n'aime pas son prochain n'est pas enfant de Dieu. 1 Jean 3h10, 15. Oui, Jésus a dit, ainsi tous les changements qui se produisirent dans l'organisation, le culte, la doctrine et la conduite de l'Église prouvent clairement que les prophéties sur l'Église apostate sont maintenant accomplies. 2. Effort dans le but de réformer l'Église apostate. À travers les siècles, certains groupes essayèrent courageusement de réformer l'Église apostate. Hélas, leurs efforts aboutirent le plus souvent à une nouvelle apostasie. Cependant, bien que l'histoire n'ait pu retenir toutes les caractéristiques se rapportant à chacun de ce groupement d'opposition, il est certain que des représentants de l'Église véritable étaient parmi eux, Dieu ayant promis un royaume qui ne sera jamais détruit, Daniel 2h44, MT 16h18. Le témoignage de l'histoire n'est pas nécessaire pour prouver l'existence de l'authentique Église du Christ. Jésus nous avait averti que les vrais fidèles seraient en petit nombre. Souvenons-nous également qu'un très petit nombre de personnes fut sauvé au jour de Noé, 1 Pierre 3h20, et seulement 7,000 au temps d'Élie, RM 11, 2 à 5. L'authentique peuple de Dieu a toujours été en petit nombre et persécuté par la majorité, 2 Tim 3h12, mais Dieu en tout temps a connu 2 Tim 2h19. Au début du XVIe siècle, l'apostasie de l'Église était si voyante que les catholiques romains eux-mêmes décidèrent de la réformer. Un peu partout en Europe, Martin Luther, John Knox, Ulrich Zwingli, Jean Calvin, etc. tentèrent une réformation devenue indispensable. Malheureusement, ce qui au début était une juste protestation contre la corruption de l'Église n'aboutit qu'à un éparpillement d'Églises nouvelles divisées entre elles aux dénominations diverses. Plusieurs doctrines et pratiques de l'Église romaine se retrouvèrent dans chacune de ces nouvelles Églises. Calvin, par exemple, établit l'Inquisition contre les catholiques de Suisse. Plus tard, les adeptes de tel ou tel réformateur acceptèrent comme définitives leurs conclusions respectives. C'est ainsi que les adeptes de Luther devinrent luthériens et ceux de Calvin, les presbytériens, un peu plus tard encore, ceux qui suivaient John Wesley devinrent méthodistes, etc. Et ainsi, jusqu'à nos jours, le nombre de ces églises n'a cessé de croître. En même temps que le protestantisme corrigeait les erreurs de l'Église apostate, il créait et entretenait un état constant de division entre plusieurs groupements religieux aux rites très différents et en complet désaccord avec la volonté du Christ, Jean 17h20-21, F4, 4 à 5. Une compagnie 1h10-14. 3, 3. Par voie de conséquence, en dehors de l'immense indifférence contemporaine en matière religieuse, chacun doit faire face au dilemme suivant, soit retourner à l'Église apostate ou joindre une des sectes du protestantisme divisé. Y a-t-il une solution à ce difficile problème ? Restauration de l'Église du Nouveau Testament. Il y a, en effet, un choix logique outre que l'Église apostate et le protestantisme aux multiples divisions. Nous pouvons restaurer l'Église d'origine. Comment ? La solution se présente sous deux aspects qui se complètent. 1. Abandonner radicalement tout ce qui est cause d'erreur et de désunion. 2. Retourner à ce qui produit la vérité et l'unité. Le déclin du catholicisme et du protestantisme a une cause commune, l'éloignement de la parole de Dieu, intime 4, 1. Toutes les églises et sectes dites chrétiennes proclament qu'elles suivent la Bible, elles suivent également leurs traditions, leurs croyances, les directives de leurs chefs, etc. Jésus dénonce énergiquement le danger de certaines traditions religieuses qui mènent tout droit à l'apostasie, MT 15, 3 à 9. Le cumul des différentes sources d'autorité religieuse apporte la confusion dont souffre le christianisme. Il est de notre devoir d'abandonner les autorités et traditions humaines afin de retrouver la plénitude de l'Église de Dieu, 2 Tim 2h19, 2 Compagnie 6h17. Nous devons nous diriger vers la source de la vérité et de l'unité qui est et restera toujours la parole de Dieu. Au cours du 1er siècle, la parole de Dieu produisit le salut des hommes, Jacques 1h21, l'Assemblée des chrétiens, Actes 2h31-47, la doctrine et la progression de l'Église du Christ, F 4h14-15. La parole de Dieu dirigeait seule l'Église locale, Tite 1, 9, et la mettait à l'abri de l'erreur, Actes 20h28-32. C'est ainsi que la parole de Dieu provoquait et préserva l'unité de l'Église primitive. Jésus avait promis, Jean 8h31. Nous pouvons prouver que nous sommes les véritables disciples du Christ non pas en nous référant à une longue succession d'évêques et de chefs spirituels mais uniquement à la parole révélée de Dieu depuis le commencement. La parole de Dieu est une semence incorruptible et qui demeure éternellement, 1 Pierre 1h23-25. Une semence, si vieille soit-elle, reproduit toujours la même espèce de plante. Quelques grains de blé, déposés à l'intérieur d'une pyramide égyptienne depuis plusieurs millénaires sont capables de produire aujourd'hui, comme jadis, la même plante, c'est-à-dire du blé. Parallèlement, la semence de la parole de Dieu produira la même église au XXIe siècle, une église semblable à celle du 1er siècle. Comme nous l'avons vu, la Bible contient toute la volonté de Dieu, 2 Tim 3h16-17. Ainsi, c'est en semant la même semence de la parole de Dieu contenue dans la Bible que nous produirons la même église unie dans les mêmes doctrines, amour, appellation, organisation, culte, etc. Au temps du roi Josué, la Bible juive fut perdue dans le temple, et c'est ainsi que la loi de Dieu fut oubliée et la religion juive corrompue. Mais lorsque la Bible fut retrouvée, lui respectée, la vraie religion fut restaurée telle qu'elle était à l'origine, 2 Rois 22, 3 à 23, 25. Aujourd'hui, il est aisé de constater que la Bible étant obscurcie par les multiples traditions humaines, une religion corrompue en résulte. Lorsque l'on s'attache à la Bible seule, alors, la pure Église du Christ, sans aucune autre dénomination, peut être restaurée. La Bible seule produit seulement des chrétiens. Conclusion. L'histoire a pu prouver que toutes les prophéties se rapportant à l'apostasie se sont accomplies. Le mouvement de réforme du XVIe siècle contribua à un retour vers la Bible mais échoua complètement quant à une restauration de l'unité telle qu'elle existait dans l'Église primitive. C'est en suivant fidèlement tous les préceptes contenus dans la Bible, modèle d'unité et d'harmonie, que nous pouvons espérer restaurer l'Église du Seigneur, celle décrite dans le Nouveau Testament. Chaque année, plusieurs milliers de personnes abandonnent une chrétienté divisée et retournent aux sources, c'est-à-dire à la Bible afin de restaurer l'Église originelle. C'est ainsi que le nombre de membres des Églises du Christ ne cesse de se multiplier partout dans le monde. Vous aussi, chers lecteurs, pouvez coopérer efficacement à ce mouvement de restauration spirituelle. Abandonnez à votre tour les doctrines et les églises inventées par les hommes. Attachez-vous à la parole de Dieu exclusivement. Unissez-vous dans l'effort commun qui tend à faire une place de plus en plus importante à l'Église du Nouveau Testament. La réforme et le développement des dénominations Église catholique romaine en l'an 606. Église luthérienne, 1530. Église presbytérienne, 1536. Église anglicane, 1536. Église baptiste, 1550. Église méthodiste, 1738. Église des mormons, 1830. Église adventiste du 7e jour, 1844. Témoins de Jéhovah, 1844. Mouvement pentecôtiste, 1885. Relisez attentivement ce texte, et allez lire toutes les références bibliques qui y sont mentionnées. Cela vous donnera des renseignements supplémentaires très précieux pour une meilleure compréhension du présent texte, et vous initiera lentement à découvrir les trésors de la sagesse ineffable de Dieu, que renferme la Bible. Question de la leçon 9. 1. Vrai-faux, la seule autorité religieuse valable pour l'humanité doit être la Bible. 2. Vrai-faux, la seule organisation universelle de l'Église est Jésus-Christ placé à sa tête et les apôtres et les prophètes du 1er siècle. 3. Vrai-faux, les premières églises n'étaient pas identiques en doctrine, amour, dénomination, organisation, culte, etc. 2. Indiquez la bonne réponse 1. Les écrivains inspirés ont affirmé que l'Église primitive, intime 4, 1. 2 Thèse 2, 3, A ne tomberait jamais dans l'erreur, B tomberait plus tard dans l'erreur, C resterait infailliblement vrai. 2. Paul a prédit que les évêques ne se, Actes 20h28-32, A ne se tromperait plus, B dirigerait l'Église vers l'erreur, C ne dirigerait pas l'Église vers l'erreur. 3. L'apparition de l'Église apostate aurait lieu, 2 Thèse 2, 7, A pendant la vie de Paul, B au temps de Martin Luther, C à la mort des apôtres. 4. Dans les églises du Nouveau Testament, chaque assemblée locale a, PHP 1, 1, à 14h23, A un évêque, B plus d'un évêque, ancien, C un prêtre. 5. Dans l'église locale, chaque évêque possède, 1 Pierre 5, 1 à 4, un rang égal aux autres évêques, B est supérieur aux autres anciens, C est responsable de plusieurs églises. 6. Quand un évêque était élevé au-dessus des autres au sein de l'église locale, le plan d'organisation biblique était assuivi, B changé, C accompli. 7. Quand au cours des siècles, les évêques établirent leur autorité sur plusieurs églises, il a obéissé au Christ, B dépassait les limites du plan d'organisation voulu par Dieu, C suivait la Bible. 8. Plus tard encore, les évêques d'un rang élevé portèrent le titre de A serviteur, B prophète, C patriarche, archevêque. 9. Au cours du VIe siècle, ces patriarches étaient A encore de rang égal, B encore de rang inégal, C encore sous l'autorité d'un seul patriarche. 10. Grégoire Ier, évêque de Rome en 590 déclara que l'évêché du successeur de Pierre devait être placé sous l'autorité A de l'évêque de Rome, B d'aucun évêque, C des évêques d'Alexandrie, d'Antiochée de Rome. 11. Quand Jean, patriarche de Constantinople, se désigna lui-même évêque universel, Grégoire Ier dénonça le titre comme étant humble, B blasphématoire, arrogant et pervers, C approprié au seul évêque de Rome. 12. En quelle année Boniface III s'arrogea-t-il le titre d'évêque universel? A en 33, B en 1870, C en 606. 13. Quand le pape fut-il déclaré infaillible? A au 1er siècle, B au 1er siècle, C au 6e siècle. 14. Où trouve-t-on dans les Écritures la prophétie selon laquelle un homme prendrait la place de Dieu dans l'Église? A en 2 Jean 7, B en Matthieu 24, 11, C en 2 Thessaloniciens 2, 2 à 7. 15, 1 Pierre 2, 5 à 9 dit que tous les chrétiens sont à des prêtres, B ne sont pas des prêtres, C sont des anciens. 16. L'usage de présenter les anciens de l'Église comme les seuls prêtres a été conseillé par Jésus-Christ, B est une vérité biblique, C est contraire à la doctrine du Nouveau Testament. 17. La commémoration du repas du Seigneur a pour but de Hébreux 9h24-28. 10h10-12. Une compagnie 11h23-26 a rappelé la mort de Christ, B changer réellement le pain et le vin en chair et en sang du Christ, C renouveler perpétuellement le sacrifice du Christ. 18. La Bible dit que Marie, MT 1h25. 13h55-56, A resta perpétuellement vierge, B monta au ciel corporellement, C fut conçu exempte de péché, D eut d'autres enfants que Jésus. 19. La Bible dit que Marie est, Luc 11h27-28. Intime 2, 5, Col 3h17, A la reine du ciel, B une médiatrice, C supérieure aux autres chrétiens. D aucune de ces réponses. 20. La loi sur le célibat des évêques et des prêtres, Intime 3, 2. 4, 1 à 3, A trouve sa justification dans la Bible, B respecte la volonté de Dieu, C est l'accomplissement de la prophétie sur l'apostasie de l'Église. I. Indiquez la bonne réponse 1. Qui tenta de réformer l'Église devenue apostate? A seulement les réformateurs du XVIe siècle, B plusieurs groupements religieux à travers les siècles, respectueux de la seule vérité biblique, C seul Martin Luther. 2. Le vrai peuple de Dieu à travers les siècles a toujours été, D à 2h44, MT 7h14, 16 à 18. 1 Pierre 3h20. 2 Tim 3h12, 1 en majorité, B situé avec exactitude par les historiens, C peu nombreux, persécutés et jamais détruits. 3. Les adeptes des différents réformateurs du XVIe siècle se groupèrent sous diverses dénominations basées sur la Bible, les opinions et les noms de leurs chefs. B prirent la Bible comme seul modèle d'autorité, C restaurèrent complètement l'Église du Nouveau Testament. 4. La division religieuse et l'erreur apportée par le protestantisme, une compagnie 1h10-14. 3, Jean 17h20-21, F4, 4 à 5, appelez à Jésus-Christ, B s'harmonise avec la Bible, C sont une cause de péché. 5. La principale cause d'erreur et de désunion est, MT 15, 3 à 9. 1 TM 4, 1, à la Bible, B la parole de Dieu, C l'abandon de la parole de Dieu remplacé par la tradition, les enseignements sectaires, les livres, etc. 6. Pour restaurer l'Église primitive, que devons-nous nécessairement abandonner? 2 Compagnie 6h17. 2 TM 2h19, à la parole de Dieu B la Bible, C les doctrines et les églises des hommes. 7. Qu'est-ce qui créa et produisit l'unité de l'Église primitive? JN 8h31, AG 20h32, à le pape de Rome, B seulement les évêques, C la parole de Dieu. 8 Au 1er siècle, la parole de Dieu produisit, RM 16h16, AC 11h26. 1 Pierre 4h16, à les dénominations diverses, B les mormons, C les témoins de Jéhovah, D l'église baptiste, E les adventistes du septième jour, F les églises du Christ composées uniquement de chrétiens, G les catholiques romains. 9 Afin de prouver que nous sommes membres de la même église qui existait au 1er siècle, nous devons, Jean 8h31-32, à faire état d'une lignée d'évêques postérieurs aux apôtres, B avoir, nous aussi, une révélation moderne sur laquelle nous appuyer, c'est respecter exclusivement la parole de Dieu. 10. Combien d'enseignements de Dieu sont contenus dans la Bible? 2 Tim 3h16-17, à tout, B aucun, c'est quelques-uns. 11. Quand la Bible est perdue ou quand elle n'est pas lue, la religion, 2 Rois 22 à 23, MT 15, 3 à 9, A reste pure grâce à la tradition orale, B se corrompt, C ne varie pas. 12. La parole de Dieu est, 1 Pierre 1h23 à 25, à une semence toujours vivante, B morte après plusieurs siècles, C inutile sans l'aide d'un interprète infaillible. 13. En diffusant seulement la parole de Dieu contenue dans la Bible, nous produirons GA 6, 7, à une église différente de l'église primitive, B une dénomination, C une église semblable à celle du 1er siècle. 14. En retournant à la Bible seule, Jean 8h31, A nous restaurerons l'église comme à l'origine, B nous ne restaurerons pas l'église comme à l'origine, C nous serons catholiques romains.